L'ordre souverain de Malte a une expérience de pratiquement 900 ans, sinon plus de 900 ans de soins. Et ces dernières années, nous avons pu développer, grâce à une entité de l'ordre qui s'appelle Malteser International, une présence dans l'urgence et la réhabilitation. L'urgence et la réhabilitation, ça a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années et nous avons été, par notre expérience, déjà avec le développement d'entités sur place, de centres médicaux, de WASH programs. WASH programs, c'est un programme de Water, Sanitation and Hygiene. Eh bien, tous ces programmes ont fait que nous avons développé, soit dans des zones de conflit, soit dans des zones d'accidents climatiques, une expérience de terrain. Je vais vous donner quelques exemples dans des zones, disons, climatiques déjà. Le tsunami, bien sûr. Le typhon Yolanda aux Philippines. Honduras, Haïti et encore aujourd'hui, le Népal. Zones de conflit. Zones de conflit, deux grandes zones de conflit. Le Moyen-Orient et l'Est africain, le Soudan. Nous sommes au Soudan maintenant depuis de nombreuses années. Malheureusement, il va être de même au Moyen-Orient, par notre présence tout autour de cette zone de conflit qu'est la Syrie, avec une présence au Liban, en Irak et en Turquie.
Questo è il primo summit umanitario.
Il s'agit du premier sommet humanitaire mondial voulu par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Il y a des milliers d'organisations présentes ici. Quelles sont les attentes concrètes de l'Ordre de Malte?
Quali sono le aspettative concrete per l'Ordine di Malta?
Je pense que Ban Ki-moon, lorsqu'il a commencé ce projet du WHS, n'avait peut-être pas une définition tout à fait exacte de ce qu'il souhaitait réaliser. Mais le résultat est là. Pendant deux jours, vont se retrouver ici des États, d'une part, des organisations internationales dépendant de l'ONU, des organisations type ONG ou des institutions type Ordre de Malte. Je crois que ça va être une rencontre d'une intense activité, ne serait-ce que par le nombre de tables rondes, le nombre de workshops, le nombre d'intervenants, et chacun va pouvoir peut-être faire le point de la situation aujourd'hui. Où en est-on aujourd'hui avec l'aide humanitaire? Que veut dire aujourd'hui l'aide humanitaire? Quel est le rôle des États? Quel est le rôle des institutions et des organisations? Quel est le rôle de l'ONU? Quelle est la place du spirituel? Quelle est la place de l'économique? Quelle est la place du social? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous vivons une période où jamais on a eu autant de zones de conflit. Jamais on a eu autant de zones de crise climatique. Ce qui fait que les appels d'aide sont énormes. Les États commencent à un petit peu être débordés par le poids financier à l'organisation à mettre en place. Les organisations ou les institutions humanitaires se retrouvent un peu dans la même situation, avec beaucoup d'expérience, avec un know-how solide, mais peut-être aujourd'hui avec des difficultés financières réelles. Les organisations internationales dépendant de l'ONU sont dans la même situation. Je viens récemment de Gaza. À Gaza, vous avez une population de 1 900 000 personnes, dont 1 200 000 sont des réfugiés. Et sur cette population, vous avez 900 000 personnes qui sont sous la protection d'UNRWA, c'est-à-dire en nourriture, en soins et en éducation. On arrive à des chiffres quand même très importants. Alors, peut-être chacun, avec son approche, avec son expérience, vont pouvoir s'exprimer. Et nous avons souhaité, à la suite des différentes interventions que nous avons pu faire, et notamment le symposium de Genève, dont le thème était les religions ensemble dans l'action humanitaire, eh bien nous avons voulu apporter notre pierre à l'édifice.
Lei ha citato la conferenza, il simposio di Ginevra delle organizzazioni religiose.
Vous avez cité le symposium de Genève des organisations religieuses. Quel est l'apport que les organisations religieuses peuvent faire à l'aide humanitaire?
L'aiuto umanitario.
Eh bien, je dirais que l'intérêt de ce symposium a été probablement, il a suscité de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'un réfugié n'est pas seulement une personne qui a besoin de nourriture, qui a besoin de soins, qui a besoin d'un abri. C'est que cette personne est une entité complète. qui a des besoins, bien sûr, de besoins, je dirais, physiques, mais qui a aussi besoin d'un accompagnement, je ne dirais pas un accompagnement spirituel, mais au moins de le prendre dans son entité. C'est-à-dire une personne qui a ses références, qui a sa tradition, qui a ses coutumes, qui peuvent être des coutumes spirituelles ou religieuses, et que c'est un tout. Et que je crois qu'on s'est aperçu, et depuis assez longtemps, que nourrir, soigner et loger n'est pas suffisant. Il y a autre chose. Et c'est ce qui est ressorti de notre expérience de terrain et qui nous a amené à découvrir que dans notre action, on s'aperçoit que, comment je veux le résumer, trois mots. Donc je dirais la présence, la confiance et la compréhension. Alors, la compréhension, c'est-à-dire comprendre l'autre, comprendre la personne qu'on va aider. Ce n'est pas seulement tendre un morceau de pain, non, c'est le prendre dans son entité pour qu'il y ait quand même cet échange et donc un respect mutuel. Cette compréhension va amener la confiance. Cette confiance va permettre d'être plus efficace, plus proche, d'avoir pour la personne qui est aidée ou l'ensemble des personnes qui sont aidées une plus grande facilité d'espoir, de s'en sortir, de réussite. Et puis en fin de compte, la présence, grâce à cette compréhension, grâce à cette confiance, eh bien, rester, c'est-à-dire être présent dans la durée. Beaucoup d'organisations, et on les comprend très bien, sont appelées en urgence, repartent en urgence, mais qu'est-ce qui se passe après ? Ces gens ont eu beaucoup d'aide, ils ont peut-être eu de l'aide dont ils n'avaient pas peut-être très besoin, ou peut-être on est tombé un peu à côté. Je me rappellerai toujours d'un groupe pharmaceutique qui donnait des médicaments. Puis au bout de 6 mois, ils ont arrêté les médicaments. Mais entre-temps, on n'avait pas trouvé de solution. Donc les gens sont retombés dans une situation difficile. Eh bien, avec le jeu de la présence, de pouvoir rester, eh bien, on a maintenant des exemples, notamment par exemple au Liban. Nous sommes présents depuis 30 ans. Nous travaillons, entre autres, avec une association musulmane, chiite, et les personnels portent les insignes de cette fondation et les insignes de l'Ordre de Malte sur leur tenue de travail. Voilà, nous travaillons ensemble. Vous savez, pendant quelques années, j'étais responsable à Bethléem d'une maternité. Jamais ou très peu, j'ai entendu ces histoires, est-ce qu'il fallait un médecin homme ou un médecin femme. Quand vous avez une jeune femme qui arrive, qui va accoucher, qu'est-ce qui compte ? La santé de la maman et le bébé qui va naître. Alors, le reste, c'est après le sourire de la maman, parce que le bébé est né et dans de bonnes conditions, et d'avoir son enfant sur le ventre. Le reste, à savoir si c'était un médecin homme ou un médecin femme, habituellement, ce n'est pas elle qui le demande.